Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Aujourd'hui, nous sommes en Côte d'Ivoire, à Abidjan, la capitale économique du pays. La ville se métamorphose à vue d'œil, partout des travaux, ici un immeuble, là un échangeur, ailleurs des pelleteuses qui creusent. Ce ne pourrait être qu'une impression trompeuse si les rapports des organismes financiers internationaux n'attestaient de ces progrès. Plus de 7% de croissance économique par an depuis 7 ans, un pays dont le commerce devrait connaître une croissance phénoménale si on en croit certaines projections. Pourtant, à un an de l'élection présidentielle, de nombreuses questions se posent. Cette croissance va-t-elle durer ou ne s'agit-il que d'un rattrapage après les années de conflit? Et puis aussi, est-ce que toute la population profite des richesses qui sont créées? Des questions importantes auxquelles vont répondre les trois invités que je vous présente maintenant. Bonjour Stanislas Zézé.
Bonjour.
Stanislas Zézé, vous êtes le PDG de la société ivoirienne Bluefield Investment Corporation. C'est une agence financière qui vous met donc parfaitement au courant de l'état de santé, en particulier des entreprises ivoiriennes et étrangères qui sont implantées ici à Abidjan. Avec vous en studio, Francis Akindes, bonjour.
Bonjour.
Francis Akindes, vous êtes sociologue, professeur de sociologie politique et économique. Vous présidez le conseil scientifique de l'université Alassane Ouattara à Boaké, au centre de la Côte d'Ivoire. Et je termine ce premier tour de table par vous, Nguessan Kofi Francis-José, bonjour.
Bonjour.
Nguessan Kofi Francis-José, vous êtes économiste, directeur adjoint du Centre ivoirien de recherche économique et sociale, le CIRES. Le CIRES a été créé en 1971. Sa mission, c'est de mener des recherches au service du développement et de former des chercheurs en économie. Au cours de cette émission, comme c'est l'habitude, il y aura des reportages de nos correspondants ici à Abidjan, Pierre Pinto et Sidi Yansani. Première question, nous sommes à un an de l'élection présidentielle ivoirienne, je l'ai dit tout à l'heure. On ignore quels seront précisément les candidats et surtout si Alassane Ouattara renouvellera sa candidature. Ce sera en tout cas la fin de son second mandat. Alassane Ouattara aura passé 10 ans au pouvoir, aujourd'hui 9 ans. En 10 ans, quel est le chemin que la Côte d'Ivoire a parcouru, Stanislas Zézé?
Comme vous avez dit, il y a des éléments positifs et des éléments de faiblesse. Du point de vue de la croissance économique, une croissance économique qui a été soutenue, en moyenne 8% sur les 9 dernières années, qui montre bien que l'économie est restée solide, résiliente, une économie diversifiée. On ne peut pas parler de rattrapage dans ce sens où, évidemment, quand on passe les caps de 3 ans, on n'est plus dans une logique de post-crise, mais on en a une logique de soutenabilité de la croissance.
Passer le cap de 3 ans, 3 ans après la crise,
oui, c'est de ça dont on parle. 3 ans après la crise. Je veux dire, là, 8 ans, 9 ans après la crise, on est toujours dans cette logique de croissance, dans cette dynamique qui est soutenue, et qui est soutenue par le fait que ce soit une économie qui soit diversifiée, donc il y a une...
Vous insistez sur la diversification de l'économie.
Oui, parce qu'elle est très importante, elle permet d'absorber les chocs. On a bien vu le choc des prix du cacao. C'est un élément fondamental dans l'évolution d'une économie, la capacité justement d'absorber les chocs, surtout pour des pays comme les nôtres, qui sont des pays finalement avec une structure économique plus ou moins fragile. Nous sommes les pays sont sous-développés, sont exportateurs de matières premières,
brutes quasiment,
évidemment, et importateurs de matières de produits finis, ce qui les met toujours dans une situation très fragile en termes de réserves de devises. Donc évidemment, avoir une économie diversifiée est quelque chose de très important parce que ça permet justement d'avoir cette capacité de résilience.
Que diriez-vous pour illustrer ce qui s'est passé depuis 10 ans dans l'économie ivoirienne?
Eh bien, moi, j'abonde également dans le même sens que Monsieur Zézé pour dire que c'est vrai que l'économie ivoirienne revient de loin. Une période de crise dans les années 80 avec un choc important en 2010 avec la crise post-électorale. On ne pouvait pas s'attendre à ce rebond très important. Mais bien évidemment, en 2012, le taux de croissance a été à 2 chiffres, faut pas l'oublier. Et depuis 2012, ça fait maintenant 7 ans que l'économie ivoirienne se classe parmi les plus performantes au monde. Et cette croissance, on pourrait dire que c'est une croissance extensive, puisqu'elle est tirée par l'accumulation des facteurs de production, notamment l'investissement, l'accumulation du capital. Elle est tirée également par l'agriculture, qui évolue sur un mode de production extensif. Et quelques signes indiquent déjà que cette croissance est extensive, puisque quand on regarde le taux de croissance depuis 2012, on voit qu'il s'étiole progressivement. Il est passé de 10% à 9%, à 8%, à 7%.
Mais c'est inquiétant, c'est ce que vous appelez...
C'est inquiétant.
Cet affaiblissement.
Oui, c'est très inquiétant. Et je pense qu'il faudra que les gouvernants puissent réorganiser leur stratégie pour que cette croissance passe d'une caractéristique extensive à une caractéristique plutôt intensive. C'est une croissance qui est tirée par la demande globale et ça fonctionne ainsi. Quand un pays sort d'une situation de crise et que le secteur privé est en difficulté, il revient à l'État de prendre des dispositions pour relancer l'activité économique. Et c'est ce qui a été fait par l'investissement public. Ça fonctionne selon la mécanique keynésienne. Par donc l'effet multiplicateur et tous les secteurs sont impactés. Et c'est comme ça que...
Alors ça c'est un peu technique, la mécanique keynésienne. Expliquez-nous ce à quoi vous faites allusion.
Voilà. Par exemple, le secteur privé a des difficultés. L'État décide donc de relancer l'activité économique à travers les investissements publics. Les investissements publics, par exemple, la construction de routes, offre les marchés. Et qui va exécuter ces marchés sont les entreprises privées.
Ce n'est pas les Chinois ?
Principalement des multinationales, ça dépend de la technologie. Donc ces entreprises privées, donc, ont leurs commandes qui augmentent et donc leur production va augmenter. Elles vont s'adresser à d'autres entreprises qui interviennent dans leur chaîne d'approvisionnement. Elles vont avoir leurs commandes qui vont augmenter également. Donc la production va augmenter et les entreprises vont recruter des travailleurs. Et c'est ainsi que dans l'économie, la production augmente, la richesse est distribuée et les emplois augmentent. Voilà, donc c'est la mécanique keynésienne. Mais la deuxième composante de la demande globale, c'est la consommation. La consommation finale qui a augmenté, qui représente 80% du produit intérieur brut. Et principalement la consommation des ménages.
C'est-à-dire que les gens achètent quoi? Des biens durables, des biens d'équipement pour
Des
leur
biens
résidence.
Durables et la consommation des Ivoiriens s'occidentalise. Puisqu'il y a quelques années, nous accompagnions nos maires au marché d'Adjamé, au marché d'Abobo pour faire des achats. Maintenant, si vous allez dans les grandes surfaces, dans les supermarchés, vous voyez des files d'attente énormes. Et vous avez des quartiers où il n'existait pas de supermarchés, des zones comme Biétry, zone 4, qui étaient des zones de prédilection des supermarchés. Maintenant, les supermarchés se trouvent même à Yopougon avec des supermarchés très importants.
Yopougon, c'est un quartier populaire d'Abidjan.
Hein. Et dans un quartier comme la Riviera, vous avez 3, 4, 5. 5 supermarchés, ça veut dire qu'il y a encore des profits à capter.
Francis Akindes, vous partagez l'optimisme de nos deux premiers intervenants?
Justement, vu du point de vue économique, tout marche.
Mais, qu'est-ce que vous appelez du point de vue économique?
Du point de vue économique, des indicateurs de création de richesses, par exemple. Ils ont donné les indicateurs. C'est vrai que... On a frôlé les 10% à la sortie de la crise. Il ne faut pas oublier qu'on est parti de moins 2% autour de 2010.
Oui.
Progressivement...
une récession grave.
Voilà, une très grave récession. Et l'économie a monté en puissance. Mais le paradoxe vient de ce que cette croissance se révèle être peu inclusive.
On en parlera dans la deuxième partie de l'émission de la faible inclusivité, je n'aime pas beaucoup ce terme qui est un peu anglo-saxon, un peu technique, de la croissance économique. Mais on va s'intéresser d'abord ici à Abidjan, à ce qui est l'une des marques du développement, ce qui est l'incroyable essor de la ville d'Abidjan. Parmi des réalisations très notables que vous avez vues tous les jours, que vous empruntez, il y a le pont à péage Henri Conon-Bédier, ouvert en 2014. Il y a un échangeur, l'amitié ivoiro-japonaise, non loin d'ici où nous enregistrons, qui devrait être livré à la fin de l'année. Et puis il y a un projet de métro. Pourtant, circuler à Abidjan reste difficile, presque un calvaire. Parfois, les embouteillages sont permanents. Et en plus, c'est cher. Pour les plus modestes en particulier, qui sont obligés de consacrer le tiers de leurs revenus aux déplacements à travers la ville. Dans les transports d'Abidjan, voilà un reportage éco-dissier d'ailleurs, signé Sidi Yansani.
Ce matin-là, à Bingerville, à l'extrême est d'Abidjan, les conducteurs de Baka hurlent leur destination pour appâter les clients. Alignant en rang d'oignon, ces minivans d'une quinzaine de places sont réputés pour être le moyen de transport le moins cher, après les taxis collectifs surnommés Woro Woro. Le moins cher, certes, mais aussi le moins sûr. Martin Kouakou, jeune comédien, se rend à Yopougon, situé 30 km plus loin, à l'opposé de Bingerville.
Normalement, je vais sur Yopougon, mais je fais escale à la Riviera 2 pour emprunter là-bas un Woro Woro et puis partir sur Yopougon. parce que le Baka, c'est pas prudent. Mais il faut au moins 45 minutes.
Et ça, c'est depuis la Riviera pour Yopougon. Voilà. Donc ça, c'est sans compter le trajet qu'on fait actuellement là.
Justement, justement. Voilà, moi je prends par exemple ici, je descends la Riviera 2, ça me fait 200 francs. Vous voyez? Mais par contre, quand je viens prendre la Riviera 2 à Yopougon, ça me fait 600 francs. Mais je prends 600 francs parce que je suis pressé et puis parce que je crains le danger. Voilà, parce qu'avec les Baka, il y a beaucoup de dangers. Ils roulent comme ils veulent, ils se comportent comme ils veulent, ils s'en foutent, voilà.
Le matin, on peut toujours s'arranger pour éviter les gros bouchons, en partant au travail aux aurores, par exemple. Mais le soir, impossible de faire sans. À Riviera Bonoumain, dans l'est de la ville, il suffit de voir l'air résigné de cette passagère d'un Woro Woro, le visage nonchalamment posé sur sa main.
Bon, ça va, mais sauf qu'à cette heure-ci, les matins, et puis à cette heure-ci, c'est un peu difficile. Les soirs, 45 minutes pour entrer. Et puis les matins, 30 minutes environ pour arriver au travail.
Et même pour les 10% d'Abidjanais se déplaçant dans leur propre véhicule, on n'échappe pas à cette galère, à l'instar de Yao.
Ça fait déjà 15 minutes que je suis dans les bouchons. Dieu merci qu'aujourd'hui est un jour férié, il y a moins de bouchons. Bon, les gens ont fait une demi-journée, du coup il y a moins de bouchons, mais d'habitude c'est pire que ça. J'ai à peu près 5 km à parcourir encore et ça sera un calvaire, je sais. Il faut, ici on a un problème, les routes sont dégradées et les petites voies qui passent dans les quartiers ne sont pas bitumées. Du coup tout le monde est obligé d'emprunter la grande voie et ça crée les engorgements, les embouteillages parce que tout le monde veut passer sur la même voie. Donc il faudrait que l'État prenne des dispositions, bitumer les petites voies de quartier, que les gens puissent prendre les raccourcis et ça pourra aider tout le monde.
Avec un taux d'urbanisation de 50%, la Côte d'Ivoire se classe 16e en Afrique, ce qui en fait l'un des pays les plus urbanisés du continent. Abidjan compte près de 5 millions d'habitants et la Banque mondiale prévoit le doublement de sa population d'ici 2030. La mobilité urbaine devient donc un véritable enjeu économique et social. D'après Anne-Cécile Soued, experte en transport à la Banque mondiale, une meilleure gestion de l'urbain permettrait une croissance plus inclusive.
Pour les ménages les plus pauvres, ça peut représenter 30% de leurs revenus. Hein. C'est la troisième catégorie de dépenses juste après la nourriture et le logement, donc c'est un poids énorme, et c'est beaucoup beaucoup de temps passé dans les transports tous les jours. C'est en moyenne 3 heures pour un Abidjanais de déplacement par jour, ce qui est énormément de temps qu'il ne passe pas à des activités plus productives ou à des activités avec sa famille, etc.
Le gouvernement a bien pris conscience de ce problème en chantier permanent. Abidjan a vu s'élever le point à péage Henri Conan Bédier, qui a fait passer le temps de trajet d'une heure à 5 minutes entre les communes de Marcory et de Cocody. Et dans les années à venir, devrait sortir de terre une ligne de bus BRT avec sa voie dédiée et surtout une ligne de métro de 37 km reliant Anyama à l'extrême nord à l'aéroport international au sud. Anne-Cécile Soued.
Il y a les grands chantiers de transport de masse que sont le métro et la ligne de BRT est-ouest. Donc c'est pareil, c'est deux axes perpendiculaires nécessaires puisqu'ils vont accompagner beaucoup d'Abidjanais dans leurs déplacements. On parle d'environ 500 000 passagers sur le métro par jour. Ça sera environ 350 000 sur le BRT de Yopougon à Bingerville. Ça va réduire drastiquement les temps de transport et les coûts de transport.
Ces projets devraient transformer la vie des usagers et faciliter l'accès à un emploi en moins d'une heure pour 50% d'entre eux au lieu de 17% actuellement. Au risque peut-être d'une superposition de l'offre de transport ? Pas du tout, répond Romain Kouakou, le directeur général de la Direction des transports terrestres et de la circulation, pour qui le transport informel comme les Baka et les Woro Woro joueront un rôle essentiel pour le dernier kilomètre.
On essaie de prendre en compte tous les systèmes de transport existants. On va leur permettre de s'organiser, de renouveler leur parc automobile, de constituer des moyens de rabattement dans ces communes-là où vous voyez les distances de parcours, les premiers kilomètres où les gens quittent de chez eux pour venir, pour qu'à la fin, on ait un système intégré. Donc c'est ce qu'on appelle de mobilité intégrée, où on va avoir des rabattements sur les axes lourds. Les axes lourds et les gens aussi vont continuer le trajet vers les zones d'emploi, les zones, n'est-ce pas, où se trouvent les infrastructures de base et sociale.
L'État ivoirien compte également créer une autorité organisatrice des transports, une entité unique compétente en la matière, afin d'assurer un bon cadre de gouvernance pour un système de transport multimodal performant.
Un reportage signé donc Sidi Yansané dans les transports d'Abidjan. Francis Akindes, Vous passez 3 heures par jour dans les transports ici ?
Ah oui, si vous ne choisissez pas vos heures de sortie ou si vos activités vous contraignent à être dehors très tôt, vous allez devoir gérer les embouteillages. Et ça, c'est à tous les points d'Abidjan. Ça rend compte de cet effet de concentration des populations dans une espèce de macro-ville qu'est Abidjan. Parce que, pour vous donner un indicateur, la ville d'Abidjan concentre 4 700 et quelques mille habitants, selon le recensement de 2014. Et la deuxième ville qui vient après, Abidjan, n'en concentre que 608 000. Vous voyez l'écart entre Abidjan et Boaké, la deuxième ville de Côte d'Ivoire.
Où vous enseignez ?
Où j'enseigne, voilà. Donc,
et où il y a moins d'embouteillages ?
Beaucoup, on ne parle pas d'embouteillages à Boaké.
Stanislas Zézé, est-ce que c'est une bonne chose ? Est-ce qu'on n'atteint pas une espèce d'hypertrophie à Abidjan ? Est-ce que toute la croissance ne se concentre pas trop ici ?
Si, justement, je crois que c'est la problématique de la majorité des pays africains. C'est le développement est concentré sur la capitale, ce qui évidemment pose un problème. Malgré toutes les infrastructures qui sont construites, la ville continue à avoir tous ces problèmes d'embouteillage, d'insalubrité et de crime et tout ce que vous voulez. Parce que justement, cette logique de concentrer tout dans une seule ville ne résout pas le problème du développement durable. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, il faut penser à créer des pôles économiques dans différentes grandes villes pour créer justement, pour éviter l'exode rural de villes de l'intérieur vers les grandes villes. Créer ces pôles économiques autour des grandes villes de sorte à désengorger la capitale qui devient finalement invivable et insupportable. Je me suis toujours posé la question de pourquoi cette logique de développement des grandes villes dans tous ces pays-là. Est-ce que ça répond à un besoin culturel ?
C'est pas uniquement dans ces pays-là, comme vous dites. Paris est aussi une ville hypertrophiée où se concentre un nombre excessif d'habitants,
oui,
d'activités.
Sauf en même temps que quand vous avez Lyon, vous avez Bordeaux, oui. Vous avez Lille, vous avez Pau, vous avez toutes ces grandes villes qui sont des pôles économiques. Vous n'allez pas voir des gens spécifiquement émigrés de Lyon pour aller travailler à Paris, ils sont bien à Lyon parce qu'ils ont justement les infrastructures nécessaires. Quand vous regardez les politiques d'investissement ou les codes d'investissement, vous voyez que on met l'accent sur
en
Côte d'Ivoire ou au Sénégal ou au Mali, on met l'accent sur des bénéfices fiscaux. Ce sont pas les bénéfices fiscaux qui attirent les investisseurs. Les investisseurs, tout le monde, ça dérange pas à un moment donné de payer des impôts si on a un retour d'investissement qui est très intéressant. Mais ils n'iront pas investir dans un endroit où il n'y a pas d'infrastructure. Donc vous pouvez décider que sur 20 ans, ils n'ont pas d'impôts à payer dans une ville qui est complètement perdue, ça ne les intéresse pas. Donc ce qu'il faut aujourd'hui, c'est mettre l'accent sur la décentralisation justement de ces investissements publics-là, de sorte à créer de nouveaux pôles économiques qui pourraient éventuellement attirer les investisseurs et relier toutes les grandes villes par des autoroutes à péage, par exemple. Ça réduirait l'investissement de l'État parce qu'aujourd'hui, il est important de comprendre que le déficit d'infrastructure en Afrique est énorme et les États n'ont pas les moyens justement de pouvoir combler ce déficit. C'est la raison pour laquelle il y a cette tendance à créer ce partenariat public-privé et encourager les privés à financer et se rémunérer sur ces infrastructures-là à long terme. 40 ans de BOT à l'échelle BOT, Build, Hold and Transfer.
Donc c'est,
ce qui veut dire la structure privée va construire l'infrastructure, elle va opérer l'infrastructure, se rémunérer sur l'infrastructure et la transférer ensuite à la
l'autoroute à péage.
Voilà, l'autoroute à péage. Mais on devait multiplier justement ce genre de BOT parce qu'à la fin de la journée, public ne veut pas dire gratuit. Et je crois que on est resté dans cette culture de quand c'est l'État qui construit, c'est gratuit. Non, public, ça veut dire tout le monde y a accès. Mais c'est peut pas être gratuit. Et si on reste dans cette logique, on aura toujours cette problématique de concentration dans les grandes villes.
C'était Codici Éco d'ailleurs sur RFI. Nous sommes à Abidjan pour parler de l'économie ivoirienne avec Stanislas Zézé qui vient de prendre la parole, Francis Akindé, sociologue et professeur de sociologie politique et économique à l'université Alassane Ouattara de Boaké. Nguessan Kofi José Francis, professeur au CIRES à Abidjan et qui enseigne donc l'économie. Nguessan Kofi José Francis, vous partagez ce point de vue selon lequel il faut développer le pays grâce à l'investissement privé? C'est une espèce de libéralisme que Stanislas Zézé prône. Est-ce que vous partagez ce point de vue?
Bien entendu, dans tous les cas, les politiques économiques qui sont mises en œuvre maintenant font un mixage entre l'intervention de l'État et une place importante accordée au secteur privé. C'est en général dans les économies, c'est le secteur privé qui tire la croissance. Et un secteur privé moderne, fort, c'est bon pour l'économie. Donc le libéralisme économique, je pense que la Côte d'Ivoire l'a adopté depuis son indépendance. Et actuellement, ce qui est mis en œuvre, c'est de créer les conditions nécessaires pour que l'activité économique se développe. Même les infrastructures économiques et sociales dont on parle, elles sont faites pour accroître la productivité du secteur privé. Faire en sorte que le secteur privé puisse écouler plus facilement ses marchandises. Donc la création de routes, d'autoroutes, de ports, ça facilite la connectivité.
Mais par exemple, est-ce que les pistes qui mènent vers les plantations de cacao au fin fond de la brousse ivoirienne, est-ce que ces pistes-là bénéficient d'une attention de l'État, des régions? Est-ce qu'il y a des investissements ou est-ce que l'investissement se concentre à Abidjan?
Oui, mais pas totalement. C'est pas totalement fait. Justement, c'est l'une des faiblesses un peu de l'investissement. Mais ce qui est important de retenir, c'est qu'on est dans un processus. Voilà. Ce qui tranche un peu avec le passé, c'est que le gouvernement a décidé de mettre l'accent sur les investissements publics, sur la construction d'infrastructures, et c'est ce que nous sommes en train de voir. Je me réjouis d'ailleurs parce que c'est l'une des caractéristiques de ce nouveau modèle économique. Accroître les infrastructures économiques et sociales pour attirer les investissements privés. On parle d'autoroutes, on parle de ponts, mais ça va se poursuivre. Ça va se poursuivre. Abidjan est congestionné parce que Abidjan enregistre un dynamisme économique, attire donc les populations qui sont dans le milieu rural, mais également les populations qui sont hors de la Côte d'Ivoire, donc l'immigration. C'est tout à fait normal qu'il y ait une congestion et on doit être très satisfait de cette politique d'accroissement des infrastructures économiques et sociales.
Francis Akinès, vous partagez ce point de vue ou vous prenez aussi le développement à marche forcée de ces infrastructures?
Je voudrais juste compléter pour dire que pendant des années, on a parlé de transfert de la capitale d'Abidjan à Yamoussoukro. Je pense qu'il y a déjà quelques infrastructures qui existent à Yamoussoukro. Je pense que c'est le moment de procéder effectivement au transfert de la capitale à Yamoussoukro pour décongestionner Abidjan. Il y a également un deuxième point économique qui est important aussi, qui doit être développé, c'est San Pedro.
Le port de San Pedro, voilà. Part ou part, une bonne partie du cacao ivoirien. Francis Akindes, je vous demandais tout à l'heure si vous étiez partisan aussi de ce développement en marche forcée des infrastructures. Vous pensez que le développement du pays passe par là?
Je voudrais être un peu prudent avec cette logique du tout marché, parce que il y a des secteurs qui s'y prêtent bien, par exemple le secteur des infrastructures et tout, parce que l'État ne peut pas endosser tout seul. Le retard est énorme dans les pays. Et les programmes, nous souffrons encore des effets des politiques d'ajustement structurel qui ont forcé dans les années 90, qui ont freiné les investissements. Alors il faudra rattraper tout ce retard. Mais dans le même temps, vous entendez la population dire on ne mange pas le pont, on ne mange pas le goudron. C'est une façon de dire que la croissance et tout ce qui se fait autour de la croissance, les investissements, ne modifie pas fondamentalement les conditions de vie des gens. Oui, c'est vrai, ils ne mangent pas le pont, ils ne mangent pas le goudron, mais ils ont besoin de goudron pour circuler, ils ont besoin de ponts pour réduire les distances à parcourir. Mais ce que les familles, les ménages regardent, c'est ce qu'il y a, par exemple, dans leur assiette, dans leur vie au quotidien, l'accès à la santé, l'accès à l'éducation. Et c'est là que le marché tout seul ne peut pas répondre à la demande sociale. C'est là que l'État doit être un peu plus présent. Voilà. Et c'est là que se pose le problème. Et d'où, d'ailleurs, les grands programmes sociaux que le gouvernement essaye de mettre en place depuis à peu près un an.
Quel programme?
Il y a les programmes sociaux du gouvernement visant à développer des mécanismes de protection sociale, notamment l'accès à l'eau, un meilleur accès à la santé avec le programme CMU et une réforme dans le secteur éducatif qui donne pas encore complètement ses résultats, mais qui s'est annoncée. Voilà. Mais c'est là que se joue, que se sentent les inégalités, les formes d'expression des inégalités que l'on observe. Et ben, c'est ces secteurs-là que ça vise essentiellement.
Stanislas Zézé, vous comprenez ces réserves qu'émet Francis Akindes?
Je comprends tout à fait, mais l'un n'exclut pas l'autre. C'est une question d'organisation, construire des infrastructures pour justement créer les conditions d'un développement n'exclut pas un investissement dans le social et une inclusivité. On parle souvent d'inclusivité. Je crois que, comme je dis, l'un n'exclut pas l'autre. C'est une question d'organisation. Et pour moi, je reviens là-dessus, j'insiste qu'une des solutions justement pour rendre ce développement plus inclusif, c'est la décentralisation. Une décentralisation effective, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans des effets de déconcentration, ce qui est complètement différent. Une décentralisation qui est une décentralisation politique, économique et financière. Donner la possibilité aux collectivités locales d'être indépendantes financièrement, donc la capacité de lever des impôts et de conserver ces impôts pour l'investissement, ce qui leur permettra justement d'avoir une certaine crédibilité vis-à-vis des partenaires locaux, régionaux et internationaux, et qui leur permettrait d'avoir justement une liberté de mettre en place des plans, des stratégies de développement qui soient adaptées à l'environnement. Et ça, c'est très important. Tant que nous ne rentrons pas dans cette logique de décentralisation, que nous restons dans une logique de concentration de pouvoir dans la capitale, évidemment, nous aurons toujours cet effet ou cette impression que nous avons une seule ville qui boum. Et dès que vous sortez dans cette ville, vous avez l'impression que vous êtes
hors
dans un
de
autre
la
pays.
Ville, vous voulez dire.
Quand vous sortez hors de la ville, vous avez l'impression que vous êtes dans un autre pays. Et ça, évidemment, tant qu'on reste dans cette logique-là, on aura du mal à justement créer cet équilibre-là, ce développement équilibré sur tout le territoire, de sorte à permettre aux populations de pouvoir justement bénéficier de retour de cette... de ce dynamisme économique qui semble être en effervescence en Côte d'Ivoire. Par exemple.
Alors, Stanislas Zézé, on va se rendre dans cet autre pays dont vous parlez. On va sortir d'Abidjan, là où les fruits de la croissance qui sont si perceptibles dans la capitale le sont beaucoup moins. Et on se rend à Boisflé, dans le centre-ouest du pays, avec un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Pierre Pinto.
À 1h30 à l'ouest de Yamoussoukro, Boisflé. Les deux villes ne sont pourtant distantes que d'une soixantaine de kilomètres, mais depuis 2 ans, les travaux de réfection de la route n'en finissent pas. Boisflé est au cœur d'une zone agricole. L'économie de la ville est donc très dépendante des prix du kilo du cacao, notamment un prix bas depuis plusieurs années. Patrice Ngoran vend des ouvrages scolaires depuis 25 ans à Boisflé et les affaires vont mal.
Depuis 10 ans, franchement, il n'y a pas d'amélioration, parce que quand je regarde dans l'ensemble, c'est la misère. Moi, je suis là en tant que libraire, je travaille un peu avec le monde scolaire et je vois que pour la plupart du temps, les enfants, après leur bac, pour la plupart, n'arrivent pas à continuer les études parce que les parents n'ont pas les moyens. Donc, pour la plupart, les enfants restent, beaucoup font les cabines, d'autres vont à la pêche. En tout cas, chacun fait ce qu'il peut pour survivre. Il y a plein de contraintes. Les parents.
À 825 francs cette année, le kilo de cacao ne permet pas aux planteurs de faire face à un coût de la vie de plus en plus élevé. Éducation, santé, tout est problématique pour Mokhtar Bamba, planteur, dans un village voisin.
Mon petit était malade, le dispensaire, on dit c'est gratuit. C'est pas gratuit. Tant que tu n'as pas fait sortir de l'argent, on peut pas te soigner. Moi, l'année dernière, la femme de mon petit frère a accouché, j'ai payé combien? 12 000. Ils prennent les sous, ils sont payés par l'État, alors on dit que, ouais, que là, c'est gratuit. Et c'est partout en Côte d'Ivoire.
Pour garder la tête hors de l'eau, les commerçants de Boisflé essaient d'emprunter. Pas aux banques, elles sont inaccessibles, mais parfois à des proches, ou alors aux organismes de microfinance de la place. C'est le cas de Blanchard Kofi, vendeur d'électronique depuis 5 ans.
Leur taux est très élevé. Bon, souvent ça monte à 20%, 30%. Bon, si tu reprends un crédit d'un million, et on te fait rembourser à 1 500 000 sur un an, 12 mois. D'autres, c'est 10 mois. Mais tu fais comment? C'est au niveau même, au niveau de la BCC et autres banques. Eux, il faut forcément être fonctionnaire pour oublier de se jeter dans les microfinances pour mieux se débrouiller, ne pas rester dans la rue pour voler. Pour que le commerce marche à Boisflé, il faut forcément qu'on doit nous financer.
Le microcrédit, c'est le métier d'Issouf Soro, dont l'agence est implantée à Boisflé depuis 2 ans. Il entend les critiques, mais estime qu'il représente malgré tout la meilleure solution de financement.
Le taux d'usure qui est applicable en Côte d'Ivoire, c'est 24% au niveau des microfinances. Nous, on ne va pas jusqu'à ce niveau. Mais il faut reconnaître que plus le client prend un crédit sur une longue période, plus il paye des taux d'intérêt. Et nous, généralement, on se limite à un maximum de 12 mois pour avoir un taux assez raisonnable. Quand tu pars prendre chez un ami, un voisin ou à la famille, généralement, le gars te demande de rembourser 2 ou 3 mois après. Nous, on étale.
Comment ça se passe en termes de volume pour vous?
Quand on regarde de façon générale, notre portefeuille a pris du volume. On a dépassé les 2 milliards de portefeuille.
À Boisflay, l'économie n'est pas aussi sinistrée que dans d'autres villes, même si les fruits de la croissance s'y font toujours attendre. L'usine Solibra, notamment, fait vivre beaucoup de familles. Mais selon Issouf Soro, la situation pourrait s'améliorer si des efforts étaient faits en matière de sécurité dans la zone. Les braquages ne sont pas rares et les routes pas très sûres, selon lui, ce qui aurait tendance à dissuader d'éventuels investisseurs.
Un reportage signé Pierre Pinto, donc à Boisflay, dans le centre-ouest du pays, de la Côte d'Ivoire. Francis Akindes, je vous voyais sourire en écoutant ce récit d'une autre Côte d'Ivoire, loin des échangeurs routiers, des immeubles qui se dressent ici dans la capitale.
Bon, on a l'impression d'être, de ne pas être dans le même pays. C'est vrai qu'il y a la croissance perçue depuis Abidjan et la croissance perçue depuis les zones rurales, les villes de l'intérieur. Je suis quand même étonné par une chose, c'est que le prix payé aux producteurs
de cacao
s'est amélioré quand même ces dernières années, même si il y a une fluctuation dans les prix de temps en temps. Je ne comprends d'ailleurs pas ce discours. Je n'arrive pas à m'expliquer comment les revenus sont censés être améliorés et les populations tiennent toujours le même discours. Depuis, elles se plaignent de ne pas voir leurs conditions s'améliorer. Il y a matière à réflexion sur cette dimension des choses.
C'est-à-dire que vous pensez qu'ils ne perçoivent pas la réalité telle qu'elle est ?
J'ai le sentiment... Est-ce que quelque part, il n'y a pas un déni ? Déni de ce que l'on reçoit, en fait ? Parce qu'il y a une augmentation des prix payés aux paysans sur ce qu'ils produisent.
Vous savez, j'étais ce matin avec une délégation de producteurs de cacao, et si vous entendez dire ça, vous passeriez un mauvais moment.
Je ne vends rien du tout. Tout le monde connaît les prix pratiqués il y a 10 ans et les prix d'aujourd'hui. Il y a une augmentation des prix. Donc, c'est à eux qu'on paye ces prix. Mais ils sont censés voir leurs revenus s'être améliorés, même si ça ne satisfait pas forcément leurs besoins, mais que ce soit reconnu. Que les revenus se sont améliorés, moi ça me paraît important. Maintenant, pourquoi les revenus n'arrivent pas à couvrir les besoins ? Ça, c'est une autre dimension qu'on peut toujours questionner. Donc, pour moi, c'est deux dimensions de même phénomène qu'il faut questionner.
Une question, Kofi Francis-José.
Oui, effectivement, les revenus des paysans se sont améliorés. C'est vrai que le secteur rural, le secteur agricole était vraiment le plus touché par la pauvreté. Les revenus se sont améliorés, mais il y a quand même des coûts que les populations supportent. Dans le reportage qu'on vient de suivre, on parle des coûts de transport, des coûts de santé, etc. Si on compare aux périodes passées où les coûts étaient plus faibles, parfois il y avait une certaine gratuité, c'est tout à fait normal que même s'il y a un relèvement des prix aux producteurs de spéculation, d'exportation, les populations se plaignent. Parce que d'un côté, elles supportent des charges qu'elles ne supportaient pas par le passé. Pour la question du lien entre la création de la richesse et l'évolution des indicateurs sociaux, je peux dire également que quand on a un observateur de l'économie en Côte d'Ivoire, c'est comme un paradoxe. C'est comme un paradoxe. Vous avez une économie qui crée la richesse à un rythme important et pourtant la population se plaint de ne pas avoir les retombées donc de cette création de richesse. Et à côté de cela, quand on regarde quand même les indicateurs qui permettent d'apprécier l'impact de ces politiques économiques dans le secteur social, on peut dire quelque part que les populations semblent avoir raison. Quand on prend l'indice de développement humain, et qu'on voit que la Côte d'Ivoire est classée parmi les pays qui ont l'indice de développement humain faible. Ça montre que, effectivement, cette croissance n'a pas un impact significatif sur le bien-être des populations. Quand on prend également l'évolution des emplois, et qu'on se rend compte que de 2013 à 2016, la part des emplois informels dans le total des emplois a augmenté, 90,9% en 2013, 93,9% en 2016, et peut-être même 94,9% en 2018, et 7 travailleurs sur 10 occupent un emploi vulnérable. Ça veut dire qu'ils sont occupés à des emplois qui ne sont pas productifs et qui sont faiblement rémunérés. Et la question qu'on se pose, c'est
qui profite. C'est-à-dire quel genre d'emploi, dans l'informalité?
Exactement, dans l'informalité, faiblement rémunéré.
C'est-à-dire, ils vendent des fruits, des légumes, fruits, dans la rue, ils tirent les chaussures.
Exactement, et sans protection sociale. La question qu'on pourrait se poser, c'est qui profite de la croissance? Puisque la croissance est mesurée par l'augmentation du produit intérieur brut, selon l'optique production, c'est la valeur ajoutée. Et normalement, il y a trois acteurs qui doivent bénéficier de cette valeur ajoutée. Vous avez les travailleurs, puisque la valeur ajoutée rémunère les travailleurs par la masse salariale. Vous avez les chefs d'entreprise et vous avez
ça,
l'État.
C'est la partie de Stanislas Zez et les chefs d'entreprise.
Oui, et vous avez l'État. Et vous avez l'État.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on constate? Je viens de vous dire que les emplois informels ont augmenté. Et la proportion des travailleurs vulnérables est importante. Donc on peut dire que les travailleurs n'ont pas suffisamment bénéficié de cette croissance. Qu'en est-il des chefs d'entreprise? Quand on interroge les entrepreneurs nationaux, ils disent qu'ils ne tirent pas profit de cette croissance parce que la plupart des marchés publics sont octroyés aux multinationales.
Étrangères.
Exact. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les multinationales profitent donc de cette croissance, pas parce que c'est délibéré, mais peut-être que parce qu'elles ont la technologie nécessaire pour exécuter les travaux d'infrastructures publiques.
Mais ce que vous nous dites, c'est que, en fait, on reproduit en Côte d'Ivoire aujourd'hui le même système que celui, disons-le brutalement, des colonies. C'est-à-dire que la richesse du pays part à l'extérieur.
Une partie de cette richesse part à l'extérieur. Je vais terminer mon développement, oui. de cette richesse part à l'extérieur. Mais parce que les ouvrages qui doivent être réalisés nécessitent des niveaux technologiques élevés. Et peut-être que les petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire n'ont pas. On prend le troisième acteur, c'est l'État. Là, on est sûr que c'est l'État. L'État capte sa part de la croissance. Et donc, les travailleurs n'en profitent pas, les entreprises nationales n'en profitent pas, mais c'est l'État. Et c'est pourquoi qu'il est important que l'État joue son rôle d'acteur de redistribution de la richesse. Et donc, ça n'a pas été fait plus tôt, mais maintenant, avec le programme PSGouv, je crois et j'espère que l'État pourra redistribuer. Alors,
le programme PSGouv, c'est un programme social auquel Francis Akindele faisait allusion. Stanislas Zezé, je vous vois un peu bouillir.
Oui, alors je crois qu'il faut, il faut relativiser les choses. On est conscient que la richesse créée dans ce pays n'est pas créée par les sociétés locales. 80% de la richesse créée est créée par des entreprises étrangères qui n'ont pas vocation à réinvestir dans le pays. Ce qui est tout à fait normal, elles sont dans leur logique. Hein. Elles sont venues investir et rapatrier le bénéfice, ce qui est tout à fait normal. Je crois qu'aujourd'hui, parce que là, on a un taux de croissance très élevé sur une période très longue, mais en face, on a 46% de pauvres. Donc évidemment, on se pose la question, mais la question, la réponse, elle est très claire. Ceux qui créent la richesse rapatrient leur richesse, ce qui est tout à fait logique. Mais non, c'est de dire comment on met en place une stratégie qui permet de justement réduire le gap entre les sociétés locales et les sociétés étrangères en termes de création de richesse. Quand vous avez les sociétés locales qui ne créent que 18 à 20% des richesses créées dans ce pays, ça pose problème. À un moment donné, c'est de se dire comment on emmène ces sociétés locales à justement créer plus de richesses? Est-ce que c'est les mettre à niveau technologique, comme il a dit tout à l'heure, ou d'organisation, ou de financement? Je n'en sais rien. Mais ce qui est sûr, il est important de comprendre que le problème, il vient en grande partie de là. Cette crise, parce que ces entreprises locales, quand elles créent de la richesse, elles réinvestissent ici dans le pays et vont justement permettent de redistribuer plus, de façon plus équitable ou plus facilement les bénéfices qui sont créés. Donc la problématique, on la connaît. Maintenant, il s'agit de s'organiser et de dire quelles sont les politiques publiques qu'on met en place, quelle est la stratégie qu'on met en place pour permettre aux entreprises locales d'atteindre ce niveau de capacité de création de richesses.
Francis Akinès, est-ce que c'est une problématique dont les dirigeants ivoiriens se sont saisis?
Oui, vous voyez, il y a deux choses. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure de la situation vécue dans le monde rural, où on voit son revenu augmenter et on n'arrive pas à subvenir à ses besoins parce que le coût de la vie augmente. Si on est dans la situation où on n'arrive pas à créer suffisamment de richesses pour créer les besoins, pour couvrir les besoins, parce que on a une population qui grossit, la ressource créée ne permet pas de redistribuer, par exemple, en termes de création d'infrastructures, de santé, d'éducation, eh bien, ça peut être une limite à cette politique de croissance et qui manque de mécanismes de redistribution. Donc ça permet d'observer ce qu'on voit en milieu rural. La question de l'emploi, ben, ça me ramène systématiquement à la qualité du système éducatif. Parce que à partir du moment où on crée de la richesse dans ce pays, ce gap dont il parle,
ce fossé
dont il parle, pour le réduire,
dont Nguessant, Francis-José parle,
voilà. Le professeur Nguessant parle, pour le réduire, il faut absolument délivrer une éducation, enfin mettre en place une politique d'éducation qui délivre des compétences, lesquelles sont capables de capter les opportunités d'emploi ou de création d'emploi pour espérer un jour être dans le maillon de la redistribution de cette richesse. Or, le système éducatif, aujourd'hui, il est en panne. Et il y a plusieurs vitesses, ce qui est aussi un marqueur des inégalités dont on parle dans le contexte local.
Les inégalités, c'est quelque chose qui marque notre temps en Côte d'Ivoire, mais partout, on voit les manifestations au Chili, en France, à Beyrouth. Est-ce que la Côte d'Ivoire est dans le monde, simplement, je dirais, comme beaucoup d'autres pays, marquée par ce phénomène des inégalités, par l'incapacité à redistribuer les richesses? Est-ce qu'elle est prise dans ce mécanisme-là?
Je crois que le gouvernement ivoirien en est conscient parce que, après avoir fait son bilan, la manière dont il a décidé d'engager ces programmes sociaux montre bien qu'il essaye de prendre en compte les critiques que tous les rapports lui font, en disant la croissance, elle n'est pas suffisamment inclusive parce que on ne voit pas bien les mécanismes de redistribution. Je prends par exemple les politiques de logement. Je me suis posé la question de savoir, mais l'État a beaucoup communiqué sur l'idée de loger les plus pauvres et tout. Et je me suis posé la question suivante. Comment peut-on loger les pauvres avec en actionnant le marché? La logique du marché en matière de logement, les sociétés immobilières rêvent de faire du chiffre. Mais comment peut-on loger des pauvres, des économiquement faibles, en mobilisant le marché? Eh bien, on voit déjà la limite. Retard dans les programmes. D'ailleurs, c'est reconnu par le ministre de la Construction lui-même. Moins de 10% des logements sont délivrés. Les logements sociaux, mais vraiment sociaux, ne sont pas vraiment délivrés. Il y a une mutation du logement social plutôt vers les logements économiques. Alors, toute cette tendance, enfin, tous ces indicateurs montrent que c'est très difficile de gérer la question d'inégalité. Il y a des politiques qu'on essaye de mettre en place. Mais je crois que tout le monde entier devient un laboratoire du traitement des inégalités. Et dans le contexte ivoirien, il y a l'expérience locale qu'on fait en matière de traitement des inégalités.
Stanislas Zézé.
Je voulais revenir sur la question de l'éducation qui est fondamentale, évidemment, pour espérer avoir un développement économique équilibré. Ce n'est pas une question de moyens, parce que L'État ivoirien dépense 24% de son budget dans l'éducation. Après, on se pose des questions. Est-ce que c'est investi de la bonne façon? Est-ce que c'est pas une question de méthodologie, de pédagogie? Est-ce qu'on n'est pas dans un modèle qui a besoin d'être amélioré? Parce que quand même, 24% du budget investi dans l'éducation et les résultats sont ce qu'ils sont, très faibles. Il faut être suffisamment honnête intellectuellement pour le dire.
C'est peut-être les profs qui sont là sont mauvais.
Non, c'est peut-être que il s'agit de.
Il y en a deux ici autour de cette
table. Je pense qu'il s'agit de repenser peut-être le modèle éducatif, parce qu'évidemment pendant plusieurs années on injecte et les résultats sont faibles. Faut se poser des questions. C'est peut-être que le système qu'on a en place, le modèle qu'on a en place, n'a pas la capacité d'absorption de ces fonds, ou alors ces fonds sont investis dans autre chose que ce dans quoi ils sont supposés aller. Donc, je crois qu'il est important c'est pourquoi il est important d'ouvrir un débat sur l'éducation nationale en Côte d'Ivoire. On n'en parle quasiment jamais.
On vient de le faire là.
Un peu. En passant que RFI en parle, c'est bien.
Mais ça ne suffit pas, bien sûr, que, les Ivoiriens s'en emparent.
Absolument, que ce soit un débat ouvert national sur l'éducation, parce que l'éducation est la base du développement.
Alors, professeur Nguessan, est-ce que vous êtes un mauvais prof?
Pas du tout. Pas du tout. Moi, je voulais ajouter à ce qui vient d'être dit un élément qui me semble fondamental, c'est la question des petites et moyennes entreprises. Nous sommes dans un pays où il y a beaucoup de PME et de petites entreprises. Qu'est-ce qui est fait pour que ces entreprises se développent? Les enquêtes que nous avons menées auprès des chefs d'entreprise et de petites entreprises, c'est qu'elles ont difficilement accès au crédit. On ne peut pas se mettre à niveau technologiquement si on n'a pas accès au crédit. On ne peut pas recruter la main d'œuvre qualifiée si on n'a pas accès au crédit. Et je pense que ça, c'est l'un des points faibles de notre économie. Et deuxièmement, les crédits qui sont octroyés au secteur privé sont en général des crédits de court terme. Alors que pour investir, il faut des crédits de long terme. Environ 5% du total des crédits, les crédits de long terme. Je crois aussi qu'il faut revoir cela pour qu'on puisse effectivement solidifier notre tissu.
C'est quelque chose que vous voyez quand vous examinez le bilan financier des entreprises que vous auditez?
Oui, je pense qu'avant... Oui, tout à fait, mais c'est important de comprendre que pour accéder au crédit, accéder au crédit, c'est comme un privilège. C'est-à-dire que vous devez monter votre capacité à absorber le crédit, votre capacité à rembourser le crédit. Ce n'est pas un don, le crédit. Donc c'est absolument important. Ceci dit, quand nous travaillons avec les PME, nous leur expliquons que le problème, la plus grosse difficulté, ce n'est pas l'accès au crédit, c'est la structuration même de l'entreprise, c'est la gouvernance de l'entreprise. Pour accéder au crédit ou pour accéder au financement, ce n'est pas ça le plus difficile. Le difficile, c'est d'être dans des dispositions qui vous permettent justement d'accéder au financement. Donc il faut qu'on mette l'accent maintenant sur rehausser la qualité des PME de sorte à ce qu'elles soient capables d'accéder au financement. L'accès au financement, c'est la deuxième étape. Mais la première étape, c'est d'avoir des PME solides. Qu'est-ce qu'on met en place comme mécanisme pour avoir des PME solides qui vont systématiquement pouvoir avoir accès au financement? Les institutions de financement, leur rôle, c'est de financer. Évidemment, mais elles ne vont pas financer des gens qui ne sont pas capables de rembourser. Et c'est ce que je dis toujours. C'est que quand vous êtes une entreprise qui est structurée, vous attirez forcément les banques. Donc je crois que c'est deux choses qu'il faut voir. Il ne faudrait pas mettre l'accent seulement sur l'accès au financement, mais c'est permettre aux PME, justement, de pouvoir accéder...
Alors, professeur Nguessan, pour le dernier mot de l'émission, on arrive déjà au bout.
J'ai voulu juste dire que les deux vont ensemble. Justement, il a parlé tout à l'heure de mettre en place une véritable politique pour faire de cette économie une économie résiliente. Bien entendu, il faut mettre en place une politique pour encadrer les PME, pour faire en sorte qu'elles soient plus crédibles auprès donc des institutions financières. Je termine pour dire que cette phase de croissance que nous observons, c'est l'expansion économique qui dure 7 ans. Je suis convaincu que si la performance se pose jusqu'en 2030, on appréciera les retombées au plan social.
On se retrouve en 2030. Cette émission est terminée. Merci à vous, Francis Akindé, Stanislas Zézé, professeur Nguessan, d'avoir accepté l'invitation de RFI. Cette émission a été réalisée par Marc Fichet. Vous pouvez nous retrouver sur le site internet www.rfi.fr ou via l'application Pure Radio sur votre smartphone à l'onglet émission. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs sur RFI.